Comme nous n'avons pas encore la possibilité d'être présents physiquement à plusieurs endroits en même temps, ça viendra peut-être un jour, mais nous avons la chance d'avoir deux rapporteurs qui vont venir nous faire d'abord un état des discussions qu'ils ont eues dans chacun de leurs ateliers. Puis nous entendrons Édouard Delruel de l'Université de Liège, que je salue, et qui prendra la parole donc ensuite. Et alors s'ensuivra un débat où vous aurez bien sûr la parole et l'occasion de partager votre expérience ou de poser encore d'autres questions. Donc j'invite d'abord les rapporteurs des ateliers. Le premier, voilà, Jonathan Moscovitch de l'ULB pour l'atelier numéro 1, la démocratie participative en ligne.
Bonjour. Bon après-midi à tout le monde. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour ceux qui seraient frustrés à la suite de mon propos de ne pas réentendre les arguments échangés. Donc c'est la première fois que je rapporte. Donc veuillez ne pas trop m'en tenir rigueur. Donc j'ai rapporté le premier atelier qui concernait la démocratie participative en ligne. La première remarque liminaire qui est importante à mentionner est l'intervention et pour savoir si la question qui nous concerne tous est pas de savoir s'il existe quelque chose qui pourrait s'appeler la démocratie participative en ligne ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une modalité d'expression. Les trois grandes questions qui ont été débattues et qui ont structuré le propos durant cette heure et demie de discussion. Et premièrement, comment veiller à la participation du plus grand nombre? Donc la question de l'inclusion et de l'exclusion des participants. Deuxième grande question est de savoir comment combiner la démocratie participative et représentative. Donc la question de la complémentarité versus l'opposition entre les deux approches. Et pour finir, la question de savoir ce qu'il reste à inventer dans la démocratie participative ou à améliorer. Donc, on a commencé avec une première intervention et qui portait sur l'initiative citoyenne européenne et la question de savoir ce que concrètement ça avait apporté au mécanisme participatif. Donc, la première observation sur laquelle les différents intervenants ont pu se mettre d'accord est qu'il s'agissait d'un dispositif participatif extrêmement lourd, que en matière d'inclusion, il y a vraiment des restrictions, que les citoyens profanes ou ordinaires sont pratiquement totalement absents de les ICE et que pour qu'une initiative puisse aboutir finalement, qu'on se rend compte qu'il y a vraiment uniquement des professionnels qui bénéficient de larges réseaux au départ, qui peuvent donc mobiliser ces réseaux pour aboutir aux millions de signatures. Et il y a également un problème au niveau institutionnel, donc du rôle de la Commission qui intervient en amont, qui intervient en aval et qui donc peut décider que les ICE ne sont pas de sa compétence ou qui peuvent, grâce à des motivations ultérieures, déterminer que la Commission ne déposera pas d'initiative concernant le million de signatures. Donc ça, c'était pour la première intervention sur l'ICE. Puis on a basculé sur le G1000. Et la question principale du G1000 est de savoir comment inclure un maximum de personnes. La focalisation déterminante du G1000 est sur la problématique de la diversité. Et c'est vraiment ce qui a le plus été recherché lors de cette expérience. Comment inclure une majorité de citoyens et surtout les citoyens qu'on a pu nommer lors de notre atelier les irréductibles. Donc souvent, ça concerne les jeunes, les personnes qui sont, disons, au niveau socio-économique, qui sont plus pauvres, qui sont plus dans la précarité, les personnes plus jeunes aussi, qui sont souvent absentes de ce genre de processus. Donc comment est-ce qu'on peut en lançant un tel processus, essayer d'inclure la diversité, d'inclure un maximum de personnes, surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude de participer. Et là, il y a eu la trouvaille innovante du GEMIL, c'est-à-dire de faire appel à des associations qui travaillent avec les personnes les plus précarisées ou avec les jeunes pour pouvoir compter et posséder un échantillon le plus représentatif que possible pour que chaque citoyen puisse défendre son point de vue et que tous les points de vue, surtout, puissent être représentés. Ce que le GEMIL a plutôt bien fait. Et on s'est posé aussi la question, vu que l'atelier concernait les modalités en ligne, comment, disons, concilier un modèle qui serait hybride, donc un modèle qui associerait des pratiques en ligne et hors ligne. Et c'est ce que le GEMIL aussi a tenté de faire, donc par différents éléments. D'abord, la hiérarchisation des priorités et le développement de l'agenda s'est fait via Internet. Et lors du GEMIL, de l'événement à proprement parler, il y a eu, disons, des G-off, donc des discussions en ligne pour les personnes qui n'avaient pas eu la chance d'être sélectionnées, mais qui, pour autant, voulaient participer depuis leur salon. Et ce modèle hybride est le modèle qui a été recherché qui a été, disons, mis en avant par les différents intervenants. Donc, pouvoir associer la participation en ligne et la participation de visu des différents citoyens qui se retrouvent réellement. Ça, c'était pas les notes. Ici. Voilà, je l'ai déjà mentionné, mais la problématique majeure qui nous a occupés, c'est toujours c'est attirer ces irréductibles, ces personnes qui désertent les champs participatifs et qui n'ont pas l'habitude de se rendre dans ce genre d'expérimentation, mais qui pourtant sont tellement essentiels à la réussite. On a eu une troisième intervention par rapport au développement des TIC, et qu'il y a vraiment une révolution technologique aujourd'hui et qui a un impact considérable sur la façon que les médias ont de mettre en avant l'actualité et surtout de la façon dont les citoyens réceptionnent cette actualité. Qu'aujourd'hui, il y a un problème en ce qui concerne la hiérarchisation de l'information et que disons, les médias ont et surtout avaient cette fonction de sélectionner l'information et de la hiérarchiser. Et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se réclamer journaliste, sélectionner son information, la publier, et qu'il n'y a plus vraiment de hiérarchie entre, d'une part, le monde politique et journalistique, et les citoyens, et que ça pose certains problèmes, et que c'est à la fois une richesse. Donc nous avons aussi débattu de ça, donc quel était l'impact, ou quels étaient les impacts de ces révolutions technologiques, avec des conséquences aussi au niveau des médias. Donc, on a parlé de la concurrence exacerbée entre les médias, la perte de recul, la standardisation des contenus, et aussi des points positifs, donc qu'aujourd'hui, l'information circule de façon beaucoup plus rapide, qu'il y a une généralisation des débats. Donc, encore une fois, au niveau de l'information, on a discuté de cette fracture réelle entre les citoyens qui sont actifs et ceux qui désertent totalement le champ informatif, et qu'on a parlé du fait qu'aujourd'hui 50% de la population ne lit pas des quotidiens, que 15% de la population belge n'a pas Internet, et pourtant ces gens-là, il faut les toucher et il faut leur permettre. Et ça, c'était aussi une question qu'on a pu voir en filigrane de notre atelier. Est-ce que les gens ont le droit de ne pas s'intéresser à la chose politique, et est-ce qu'il faut les laisser tranquilles, ou est-ce que le but, justement, et surtout le but de mandataires politiques, est justement d'attirer ces déserteurs de la politique et de les inclure dans le système plus large. On a eu une dernière intervention, je ne garde pas l'ordre chronologique des interventions, sur les modèles, les outils qui étaient à notre disposition aujourd'hui en ce qui concerne la participation en ligne. Donc il y a différents outils avec différentes visées. Donc on a parlé du modèle consultatif, dont, entre autres, par exemple, on peut soumettre la question « Que faire pour améliorer les transports en commun ?» et donc une boîte à idées en ligne, donc les personnes peuvent se prononcer là-dessus. On peut utiliser Internet pour évaluer les politiques publiques, donc pour que les citoyens se positionnent par rapport aux politiques publiques, par rapport au vote, pondérer les préférences, élaborer les propositions ou encore des systèmes de pétitions en ligne. Donc il y a plusieurs outils qui existent. La question est comment, disons, impliquer les citoyens dans ces discussions. Et il y a dans le débat qui a suivi les différentes interventions, on a parlé de la différence entre, d'une part, l'égalité formelle et, d'autre part, l'égalité substantielle. Donc c'est une chose d'amener les différents citoyens à débattre et à venir, disons, se rendre dans des processus participatifs. Mais c'est également une autre chose de les faire participer également. Et ça, c'était un point qui a été soulevé par une personne dans le public. On a également parlé de l'importance de l'éducation citoyenne. Donc, si on veut qu'un maximum de personnes participent et soient, disons, intéressées par des mécanismes participatifs, il faut également, en parallèle, lancer des cours ou au moins, disons, introduire des cursus citoyens à différents niveaux pour susciter un intérêt et pour que les gens ne demeurent pas en marge. Et on a discuté aussi du fait que, d'après certains dans notre atelier, c'est ce qui constitue l'essence de la citoyenneté, avoir ce sens critique et pouvoir se positionner sur les différentes questions. Et puis, le président qui se trouve derrière moi a mentionné le fait que l'éducation n'était pas, disons, qu'elle ne suffisait pas en elle-même et qu'il fallait d'une part éduquer, mais également impliquer, donc que les deux allaient de pair et qu'on ne pouvait pas uniquement se focaliser sur l'éducation. Et pour finir, j'arrive à un point où j'ai plus pu reproduire mes notes, donc j'essaye de lire, ce qui est assez compliqué, surtout pour les gens qui connaissent mon écriture. Et oui, peut-être que je peux conclure par un bilan optimiste mais nuancé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de processus en ligne ou réels, disons, je ne peux pas opposer en ligne réel, mais il y a de plus en plus de processus participatifs qui voient le jour. Et il y a d'ailleurs un cadastre de toutes les initiatives en ligne qui a été réalisé. Et c'est important de pouvoir en débattre et de ne pas uniquement voir le côté négatif ou positif, mais de pouvoir vraiment en avoir une analyse nuancée pour pouvoir, disons, approfondir le sujet et voir ce que ça donne pour les années à venir à court, moyen ou long terme. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci pour ce rapport fidèle, même si c'était une première réussie, si je peux me permettre. Et j'invite alors monsieur... voilà, ici, okay. L'atelier numéro 2, monsieur Vincent Jacquier, donc pour l'atelier numéro 2 qui était présidé par Jean-Benoît Pilet. C'est votre première aussi ?
Absolument, oui.
Ah ben, allons-y.
Merci, monsieur le président. Donc, voilà, nous ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié, c'est également l'incarnation de ces dispositifs participatifs, délibératifs, mais en ce qui concerne les dispositifs qui sont liés plutôt à des rapports... qu'on dira peut-être plus ou moins, donc c'est-à-dire en face à face, non plus sur la toile, mais en se rencontrant dans des hémicycles qui pourraient peut-être ressembler à l'hémicycle dans lequel nous sommes assis aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est vous présenter cela en deux temps. Premièrement, je vais vous dresser en quelques phrases simplement les différents projets qui ont été présentés lors de la séance, en essayant à chaque fois de pointer un ou deux enjeux importants qui pourront nourrir nos réflexions dans la deuxième heure. Et dans un deuxième temps, alors, je vous présenterai quelques points qui sont transversaux aux différentes expériences présentées et qui ont fait débat entre les participants, entre les personnes qui ont présenté des initiatives. Dans un premier temps, on a étudié la question des grands projets de réaffectation urbaine. Et on a notamment étudié la question de la cité administrative à Bruxelles. Je ne suis pas bruxellois, je ne saurais pas vous dire exactement où ça se situe, mais se poser la question de savoir de ce qu'on faisait de ce bâtiment, de cet endroit qui était cette cité administrative. Et on a invité la population, et je mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, à venir donner son avis sur la réaffectation de cet endroit. Et deux questions qui se posent par rapport à ça. La première, c'est qui est le public pour venir discuter de cette question ? Pratiquement, personne ne vit au sein de la cité administrative. On ne peut donc pas utiliser la notion d'habitant. S'agit-il plutôt des personnes qui habitent près de cette cité administrative ? S'agit-il des utilisateurs ? Et si on va encore un peu plus loin, et c'est le cas pour l'ensemble des dispositifs participatifs, faut-il inviter les groupements, les personnes qui sont déjà actives sur ce territoire, les personnes qui se sont déjà organisées, les associations qui participent donc déjà à la vie publique, à venir ou non discuter au sein de ce dispositif. Dans ce cas-ci, on ne les a pas invités formellement. Et ça peut créer différentes tensions. Et on remarque que si au début on avait envie d'inviter presque l'ensemble des Bruxellois, la définition du public s'est petit à petit rétrécie sans être, en restant toujours assez flou, sans savoir qui exactement était concerné par ce dispositif participatif. La deuxième question à pointer, c'est celle de la réaction des participants, des personnes qui acceptent de venir au sein du dispositif. Et ce qu'on remarque, c'est que très souvent, ils ne sont pas dupes. Et Loïc Blondiau a dressé tout à l'heure toute une série de critiques que l'on peut faire au dispositif participatif. Eh bien, on peut voir que les profanes, les citoyens qui sont apparemment si ordinaires, font les mêmes critiques. Au sein des dispositifs, ils ont l'impression parfois qu'on est en train de jouer avec eux. On cite que le ministre-président n'est pas venu et donc ça veut dire en fait qu'on ne nous écoutera pas et en fait tout est déjà décidé à l'avance. Qu'est-ce que vous faites avec nous ? Que voulez-vous de nous ? Et c'est une question que les participants au dispositif renvoient aux organisateurs des expériences participatives et délibératives. Ça, c'était pour la première expérience. La deuxième expérience, il s'agit des forums de quartier à Bruxelles. Dans 9 quartiers de Bruxelles, une fois par an, il y a une rencontre entre des citoyens et les élus de la ville, qui viennent pour discuter des différents projets, pour discuter de toute une série de thématiques. Et il s'agit donc d'une tentative de créer un processus hybride, à la fois avec un pied dans la démocratie participative, on invite les citoyens à venir délibérer, en faisant des liens avec des dispositifs plus traditionnels, la démocratie représentative, puisqu'on s'adresse aux élus. Et l'intervenant a dressé toute une série d'avantages en expliquant que ça permettait de créer un véritable dialogue, que les citoyens pouvaient mobiliser cette institution comme une ressource afin de pouvoir faire leurs demandes aux politiques, de pouvoir leur adresser leurs différentes critiques, leurs suggestions, et que c'est donc un espace d'éducation à la démocratie où on apprend à parler, où on apprend à discuter et où on apprend donc à avoir une relation, à entretenir une relation avec les pouvoirs publics. Mais l'un des désavantages de ce type de dispositif, c'est que bien souvent, ça a peu de répercussions sur les politiques réellement mises en place, puisque le lien entre dispositif participatif et décisions qui devront un jour peut-être être prises par les pouvoirs publics n'est pas bien précisé dès le départ. Et donc, on remarque, et ça je pense que c'est quelque chose d'absolument normal, mais que les citoyens sans cesse dépassent le cadre des simples compétences communales de l'élu qui est présent à la réunion. Et qu'au sein d'une réunion où on devait initialement parler d'une réaffectation d'une rue, par exemple, il peut très bien arriver qu'on arrive à discuter d'inégalités, d'enjeux qui peuvent dépasser le simple lieu de la commune. Et la deuxième difficulté, mais je l'ai déjà esquissé, c'est que donc une fois qu'on a discuté, qu'est-ce qui peut arriver ? Et donc ça revient à cette question qui a été soulevée ce matin, qui est celle de l'enjeu. Quel est l'enjeu de ce type de discussion très informelles, mais aussi qui sont peu rattachées à des actions publiques précises. La troisième expérience, c'était celle d'un travail urbain dans le quartier de la Roue, ici à Bruxelles, organisé, enfin, mis en place par l'ASBL Périphérien, où là, l'objectif était également de créer de la participation, de créer des espaces délibératifs, afin de dresser des cahiers de propositions à transmettre au pouvoir public sur l'affectation de ce quartier de la Roue. Et j'ai pointé ici deux éléments que je trouve assez intéressants. Premièrement, c'est que lorsqu'on parle de délibération, et dans le modèle idéal tel qu'il pourrait être développé par Habermas, on pense à cet échange d'arguments. Mais au sein du dispositif, les intervenants ont montré qu'il y a bien d'autres choses qui se passent. On discute de cartes, on fait des dessins, on met en évidence différentes choses, on se rend sur place, on va visiter le quartier. Et donc, il s'agit de penser le renouvellement de la démocratie également dans le renouvellement des échanges qui peuvent s'établir entre citoyens, puisque en ce qui concerne l'instance parlementaire, on a essentiellement pensé les relations comme des relations, je reviens encore avec cette notion, d'échange d'arguments. Est-ce que la démocratie peut accueillir d'autres types d'échanges? Deuxième élément par rapport à cette expérience, c'est celui de la temporalité. Il s'agissait d'une expérience initialement prévue pour un an, et c'est, je ne vais peut-être pas assez insister, je pense que je ne l'ai pas dit, mais le but était d'affecter, donner l'avis sur l'affectation d'une partie d'un budget. Et donc il y avait un enjeu, là, contrairement au point précédent, puisqu'il y avait cette question du budget, de finances, et donc la volonté de budgétiser toute une série de projets, de les prioriser pour voir quels sont les plus importants, les comparer et pouvoir au final dresser un cahier de propositions qui soit le plus précis possible. Donc ça, c'est un point sur lequel je n'avais pas assez insisté. Mais donc je reviens à la question de la temporalité. Ce qu'on remarque, c'est que ça a duré plus longtemps que prévu, ça a duré 3 ans, mais que même après l'expérience délibérative, une fois que les personnes de l'SBL périphériale ont arrêté leur travail sur ce terrain, le groupe a continué à exister. D'autres personnes sont venues dans le groupe et il y a une dynamique associative qui a continué à la suite de ce dispositif participatif. Et ça pose donc la question de l'autonomie de la société civile par rapport à ces processus qui sont souvent, dans un premier temps, imposés ou proposés de façon top-down, du bas vers le haut. Nous voulons que vous participiez, mais on voit que dans ce cas, les gens continuent à participer après, même s'il n'y a plus cette structure formelle. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Le temps de conclure. Donc, je vais aller très vite pour... je vais juste rendre alors garder deux points pour la discussion. Première chose, et je pense que M. Delruel aura quelques commentaires à faire sur ce sujet, c'est que les trois intervenants ont expliqué qu'il y avait énormément de conflits au sein de ces espaces délibératifs. Des conflits entre participants et des conflits entre les participants et les élus. Il se pose donc la question de savoir quelle est la place de ce conflit au sein des dispositifs délibératifs, et également la relation entre ce conflit interne au sein de cette petite réunion avec les conflits qui peuvent prendre part dans l'ensemble de la société. Et la dernière question, qui est celle en fait qui nous a pris le plus de temps dans la discussion, c'est celle de la représentativité. Beaucoup de personnes peuvent se demander, mais au fond, est-ce que ces instances de participation sont représentatives? Et on sait notamment que ce sont toujours les mêmes, on l'a déjà évoqué ce matin, qui se retrouvent dans ces endroits. Et 4 remarques, courtes remarques par rapport à cela. Premièrement, c'est que cette critique de la non-représentativité des espaces participatifs est en fait assez semblable à la critique qu'on fait des assemblées parlementaires. On leur oppose aussi l'idée qu'elles ne seraient pas représentatives de la population. Et donc on voit que la représentativité est à la fois utilisée pour critiquer la démocratie participative et également pour critiquer la démocratie représentative. Deuxièmement, que cette question de la représentativité, elle est discutée par les acteurs au sein même des dispositifs participatifs. Entre acteurs, on dit, mais vous, en fait, qui êtes-vous pour dire ça? Vous êtes représentatif de quoi? Donc c'est-à-dire que c'est une réflexion qu'on peut avoir ici lorsqu'on essaye de penser le meilleur modèle possible, mais c'est une question qui est continuellement discutée par les acteurs sur les terrains pour savoir qui est représentatif de quoi. Et par rapport à cela, il y a une des intervenantes qui a en fait expliqué que lorsqu'on demande si les dispositifs sont représentatifs, en fait on fonctionne avec une ancienne conception de la représentativité, qui est liée à celle de statut. Quelqu'un serait représentatif ou non de la population. Et qu'il serait beaucoup plus intéressant de penser cette représentativité comme un processus, comme une relation, comme une prétention à la représentativité des nôtres et des autres, et pas simplement comme le pensaient certaines théories de la démocratie libérale, comme l'Assemblée étant seule représentative, une fois pour toutes, du peuple qui l'a élu. Dernière phrase qui a été lancée par un participant et que je trouvais assez intéressante, qui a dit que par rapport à ça, ben, non à la représentativité, qu'on arrête de discuter cette notion, en fait chacun a droit, parce qu'il est citoyen, à exposer son point de vue sur la place publique, on n'est pas toujours obligé de devoir justifier ses prétentions, mais ce qui est important, c'est de placer l'accent sur la diversité. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup également pour vos deux rapports à tous les deux. J'invite alors Édouard Delruel à venir nous rejoindre pour les conclusions avant le débat, ou les commentaires plutôt, avant le débat avec la salle qui serait éventuellement éclairée par mes deux voisins ici.
Voilà, merci Monsieur le Président. Oui, donc on m'a demandé de faire des conclusions qui ne soient pas une synthèse, heureusement d'ailleurs, mais plutôt pour essayer de relancer le débat. Donc je vais plutôt faire un certain nombre de questions. Maintenant, le sujet est tellement passionnant et je m'y sens tellement impliqué pour diverses raisons que je vais peut-être avoir du mal à me réfréner. Donc, Monsieur le Président, vous n'hésitez pas à m'interrompre quand vous estimez que je vais vraiment trop loin dans ma prise de parole. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et je pense que c'était très important de le rappeler, c'est que la démocratie, c'est un terme, je rappelle toujours ça à mes étudiants, c'est un terme qui est péjoratif hein, jusqu'au XIXe siècle. Hein. C'est-à-dire que la démocratie, c'est, dans la typologie des régimes, un mauvais régime. Hein. C'est un régime corrompu, comme la tyrannie ou comme l'oligarchie. Et effectivement, je pense qu'on a bien fait de rappeler que ceux qui ont construit notre système politique n'étaient pas des démocrates. Alors, je ne vais pas ici me lancer, parce que sinon, vraiment, je vais aller très loin, mais je pense qu'il y a un élément de généalogie de la démocratie participative qu'il faut quand même rappeler. Il est important pour que je fasse mon petit argument pour relancer les questions. Si je prends la thèse des grands historiens du républicanisme, c'est-à-dire Quentin Skinner, Pocock, etc., qui ne sont pas bien connus du grand public, peu importe, ils disent la chose suivante, c'est qu'il y a toujours eu en Europe, dans la modernité, une tradition républicaine de participation citoyenne, hein, qui considérait que la liberté, c'est l'émancipation citoyenne, c'est la participation citoyenne. Tout ça est lié au développement des communautés urbaines et des villes à partir du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et que cette tradition a été recouverte par une autre tradition que je vais, avec d'énormes guillemets, appeler libérale, qui consiste à dire non, la liberté, hein, l'émancipation, c'est le respect des droits individuels, et ce respect des droits individuels, de la vie privée, eh bien, c'est l'affaire d'un État et d'un État fort. C'est la thèse de Thomas Hobbes, et d'un État qui représente donc ces individus. C'est la thèse de Thomas Hobbes qui est reprise par John Locke, par exemple. Et pour ces auteurs, la participation est très dangereuse. Elle est dangereuse parce que c'est elle qui a provoqué les guerres de religion, parce que c'est elle qui pousse le peuple, y compris le petit peuple, à se révolter et à donner son avis. Tout ça est souvent un peu mis de côté dans la vision que l'on a de nos institutions démocratiques. Et au XIXe siècle, quand s'impose l'idée que finalement ceux qui sont légitimes, ce sont les technocrates, les experts, les technocrates, cette idée est assez bien reprise par la tradition socialiste, voire même par la tradition marxiste. Donc les grandes traditions politiques, le socialisme, le libéralisme, avaient un rapport à la démocratie participative qui était un rapport très, très de grande prudence, voire même d'opposition, sans faire de caricature. Et puis, il y a toute la question du corporatisme, c'est-à-dire finalement que ben, ce qui est légitime, c'est des groupes qui représentent, on a parlé des lobbies tout à l'heure, qui représentent des syndicats, des associations, des corporations, des ligues, qui se groupent, et c'est eux qui sont représentatifs. Et donc, on voit comment la démocratie représentative, la démocratie corporative, la démocratie technocratique, si je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire les élus, les lobbies, les experts, eh bien, ont un rapport, oui, compliqué, et donc de méfiance, ça a été dit tout à l'heure, vis-à-vis de la démocratie représentative. Maintenant, tout ça, la démocratie, le républicanisme, la tradition républicaine, elle a quand même existé. Hein, les grands théoriciens, c'est Rousseau, c'est Machiavel, etc. Donc tout ça, évidemment, continue à percoler. Notre système est un mixte de tout ça, hein, est un bricolage de tout ça. Alors, je dis tout ça pourquoi ? Parce que notre système est un mixte de tout ça, et donc, je pense que c'est quelque chose qui a été dit ce matin et encore cet après-midi, c'est qu'on aurait sans doute tort de confronter, d'opposer la démocratie participative avec toute cette histoire de la démocratie qui est représentative, qui est aussi celle des experts, de la connaissance, des comités d'experts qui peuvent y avoir, et de la légitimité des syndicats, des associations et des lobbies. La deuxième chose, c'est de peut-être pas idéaliser la démocratie participative, de ne pas la confondre avec la démocratie, de ne pas l'idéaliser et de ne pas la diaboliser, de ne pas la confondre avec la démocratie directe, hein, référendum, de ne pas l'identifier avec la contre-démocratie, ce que Rosan Vallon appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire le peuple qui ne fait que surveiller, protester, empêcher, dire non, judiciariser, hein, à travers les recours, par exemple, tous les phénomènes NIMBY. Donc d'essayer de bien faire la distinction, mais en admettant que dans la démocratie participative, il y a aussi du populisme. Hein, il y a aussi du populisme et il y a aussi ces éléments. Donc voilà, donc de ne pas opposer la démocratie formelle et institutionnelle et la démocratie participative. Et de se dire que c'est ensemble, je pense que c'est le sens du colloque, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien vu et bien joué, que c'est ensemble qu'il faut renforcer la légitimité des acteurs chacun. C'est-à-dire que la démocratie participative peut renforcer la légitimité de la démocratie institutionnelle et vice-versa si la démocratie institutionnelle et formelle prend au sérieux la démocratie participative. Et que là, il y a un enjeu, qu'il faut se dire que les élus, les experts, les syndicats, les associations, les lobbies et toutes les initiatives de démocratie participative ont un intérêt commun qui est peut-être de reconstruire le politique, de redonner un sens au politique. C'est quelque chose qui a peu été dit, mais que je glisse quand même dans la discussion. Je pense que si on est là réunis, si on sent que toutes ces formes de démocratie doivent travailler ensemble, c'est parce que nous nous sentons dépossédés de notre pouvoir, des décisions sur notre existence, par d'autres pouvoirs parfaitement anonymes et même un peu, on ne sait pas trop où ils sont, que mon collègue Étienne Balibar, philosophe politique français, appelle le Global Financial Market, hein, donc quelque chose comme ça, d'un peu, donc qui est peut-être le véritable pouvoir. Et donc là, on a tous intérêt, tous les acteurs que je dis, d'essayer de retrouver du pouvoir par rapport à cette puissance un peu anonyme qui semble avoir quand même beaucoup de pouvoir sur notre vie. Voilà, donc ça, c'est peut-être la première réflexion, j'en aurai une deuxième, première réflexion que je voulais avoir. Et dans ce cas-là, j'ai été très intéressé par ce qu'on a dit sur qu'est-ce que le Parlement pourrait faire pour avoir des initiatives de démocratie participative avec les plateformes informatiques, de discussion, mettre à la discussion des propositions de loi, des choses de ce genre. Il y a tout ce que les partenaires sociaux, les lobbies, etc., pourraient faire, hein, lobby au sens le plus large du terme, les confédérations, pourraient faire aussi un pas vers la démocratie participative et vice-versa. Imaginons tous les gisements de démocratie participative qui se trouvent dans ce qu'on appelle l'économie créative aujourd'hui ou dans l'économie circulaire, les circuits courts, etc. Donc là, on est dans quelque chose qui est proche de l'économique. Et puis, par rapport aux structures plus technocratiques, je suis, pour des raisons diverses, un peu le nez sur les questions de la sixième réforme de l'État, en l'occurrence du côté de la région Wallonne. Je suis frappé que cette sixième réforme de l'État, qui est un transfert massif, qui touche à des questions fondamentales des citoyens, absolument fondamentales, l'emploi, la santé, le logement via la fiscalité, la famille via les allocations familiales, que ces questions restent actuellement des questions de pure tuyauterie institutionnelle ou des questions d'experts. Alors, moi, je rêverais que les acteurs de terrain, je ne dis pas, pourquoi pas tous les citoyens, mais qu'en tout cas les acteurs de terrain, les responsables, des gens qui dirigent des maisons de repos, etc., etc., s'expriment sur la question et qu'on trouve des modalités pour envisager toutes les questions liées au transfert de compétences à la sixième réforme de l'État dans cette perspective de démocratie participative. Voilà quelques idées. La deuxième idée, mais je vais être beaucoup plus bref, Monsieur le Président, c'est ceci. Je pense, un...